Dans ce nouvel épisode des Aventuriers Engagés, nous invitons Léa Brassy, une surfeuse, apnéiste et chasseuse professionnelle. Elle nous raconte sa vision de l'écologie et le contact qu'elle a pu développer avec la nature depuis sa toute petite enfance. Elle nous raconte aussi ce que les voyages lui ont apporté tout au long de sa vie, mais bien plus encore, à vous de le découvrir.
Eh ben, merci beaucoup de me recevoir. C'est chouette. Alors moi je m'appelle du coup Léa, je viens du monde du surf un petit peu. J'ai grandi adolescente avec le surf, ça a été un peu mon école de la vie, et sur le tard j'ai aussi découvert l'apnée, la chasse sous-marine. Du coup c'est un petit peu les activités marines qui me permettent de profiter de l'océan et de m'exprimer un petit peu dans le milieu sauvage. Voilà, donc je suis surfeuse et apnéiste et chasseuse sous-marine. C'est à travers les passions en fait que j'ai eu envie d'aller à la rencontre d'autres endroits, d'autres cultures surtout. En grandissant avec le spectre du surf et de l'océan, j'avais envie de rencontrer des gens qui vivent proche de la mer, qui vivent en fait avec et pour la mer et grâce à la mer, et de voir comment ils font ça dans une certaine harmonie, et d'en voir les limites aussi, mais aussi les possibilités. Du coup, si j'analyse un petit peu, ça a toujours été le fil conducteur des voyages que j'ai faits, depuis les tout premiers quand j'avais 14 ans jusqu'à maintenant, quoi. Du coup, j'en ai 36. Du coup, voilà, aller à la rencontre des gens qui vivent l'océan et qui, d'une manière ou d'une autre, trouvent une harmonie pour que ça puisse durer pour les générations à venir aussi. Alors, on appelle ça maintenant un engagement écologique. Moi, c'est quelque chose qui... C'est comme si c'était un concept qui avait été mis sur la manière dont j'ai été éduquée, en fait. Non pas que j'ai été éduquée avec une connaissance extrême de l'environnement, mais plutôt avec des valeurs de sobriété, de simplicité, d'économie aussi, qui sont très courantes dans les campagnes, chez les gens simples en fait, quoi. Du coup, moi j'ai grandi dans un univers de gens qui étaient fils d'agriculteurs, mes parents ils étaient les enfants d'éleveurs laitiers de toutes petites exploitations. Chez moi, on faisait le jardin, on recyclait, on récupérait, enfin on réemployait plutôt. On se passait les choses, on se passait les vêtements, les affaires de cousins en cousines. C'était des choses qui n'étaient pas forcément réjouissantes quand j'étais jeune, parce que des fois, on avait envie d'avoir un truc neuf et un truc à soi. Mais c'est des choses qui ont forgé forcément ma manière d'appréhender le fait de consommer. Et c'est que beaucoup plus tard, en fait, que je me suis rendu compte que tout le monde ne grandissait pas comme ça, que c'était une singularité. Et c'est en quittant le cocon familial et en rencontrant des gens, des adultes qui mettaient des concepts derrière ces manières de vie-là, notamment en Bretagne. Et ça pouvait être des gens auxquels je pouvais m'identifier, des gens plus âgés que moi, qui faisaient des trucs super, qui avaient des boulots assez variés. Pouvait être prof de piano, professeur des écoles, boulanger, n'importe quoi. Mais c'est des gens que je croisais au surf, que je croisais un peu dans la vie quand adolescente, je suis partie vivre en Bretagne. Et du coup, ils mettaient en application en fait des valeurs que moi j'avais appréhendées gamine par mon éducation, qui parfois que je ne comprenais pas forcément, en fait. Et du coup, ils les ont rendues populaires, à mes yeux, ces valeurs-là de simplicité, de sobriété, d'échange, d'entraide, de réemploi. Tout ça, de réparation, c'est devenu... je me suis dit, ah ouais, c'est pas que le truc qu'on fait parce qu'on a parce qu'on n'a pas de thunes à dépenser, quoi. C'est, on fait ça parce que ça a du sens, en fait. Et du coup, ça m'a permis... j'étais riche de toute cette expérience éducative, mais là, ça m'a permis d'y mettre mes propres valeurs, en fait. Et c'est comme ça que je suis qui je suis. Et en mûrissant, en grandissant, en vieillissant, là, avec la tournure un peu des choses depuis, bon, ça fait de nombreuses années maintenant, mais c'est devenu un peu une tendance. Mais voilà, moi, c'était simplement tout ce qu'on met en avant maintenant, c'est la simplicité des campagnes d'autrefois. Hein. C'est juste qu'on y met. On y met du sens et des valeurs qui sont plus modernes. Et voilà. Cet engagement écologique, s'il faut l'appeler comme ça, c'est quelque chose dans lequel j'ai baigné petite, mais j'ai aussi baigné dans la soif d'aventure pour grandir, en fait. Parce que pour moi, le voyage, ça a été une école de la vie. Je trouve que c'est en sortant de ton confort, en allant dans des endroits... où tu n'as pas toute la sécurité que tu as à la maison, que tu apprends à être différemment, à faire différemment et à choisir qui tu as envie d'être, en fait. Pour moi, ça a été une étape de développement extraordinaire. Aussi parce que je viens d'un milieu, enfin, c'est pas d'un milieu, mais je viens... Voilà, j'ai pas eu une enfance très facile avec des trucs où il fallait que je trouve d'autres manières de faire que celles avec lesquelles j'avais grandi. Et pour ça, il me fallait des exemples, quoi. Donc, il fallait... C'est pour ça que j'ai autant voyagé aussi. C'était pour voir un maximum d'exemples, pour pouvoir choisir comment, moi, je veux vivre, quoi. Quelles valeurs... et comment les mettre en œuvre. Et quelque part... je pense que quand on grandit, que tout est... Enfin, tout se passe bien et tout est fluide. On a plus ou moins un chemin tracé à suivre. Mais moi, ce n'était pas du tout mon cas et je pense que ce n'est pas le cas de beaucoup de jeunes. Et du coup, en ce sens, le voyage, il est très formateur. Mais pour le coup, c'est normal qu'on mette en avant l'ambivalence maintenant de... Enfin, qu'on stigmatise un peu le voyage parce que c'est forcément prendre l'avion, aller loin et avoir une empreinte carbone catastrophique. Ce qui est mon cas. Hein. Moi, si je regarde, j'ai une empreinte carbone qui a été catastrophique. On n'avait pas conscience de tout ça autant. Ouais. Et puis j'ai aussi fait ce que je pouvais, quoi. Et clairement, quoi. Avec ma donne, et j'ai fait de mon mieux. Et ce sera à refaire, je le referai, clairement. Mais aujourd'hui, je pense, comme je le vois, il suffit plus de partir loin, en fait. Tu peux partir loin et pas être en voyage. Mmh. Moi, je différencie beaucoup maintenant les vacances des voyages. Pour moi, un voyage, tu prends la peine d'éteindre ton téléphone. Tu prends la peine de te déconnecter des réseaux, d'Internet et de te laisser surprendre, en fait, par l'expérience, par les gens que tu vas rencontrer, par le hasard qui n'en est jamais vraiment un. Et ça, pour moi, à mon sens, a toujours lieu d'exister et aura toujours lieu d'exister. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller très loin, forcément, et faire des choses qui sont très coûteuses pour l'environnement. Je pense qu'il faut aller là où... En tout cas, moi, j'encouragerais à aller là où notre cœur vibre le plus, sincèrement. Mais de le faire avec la manière, tant qu'à utiliser ces ressources-là, parce qu'on en a besoin pour grandir en tant que personne, c'est tout à fait légitime. Mais par contre, de le faire bien, c'est-à-dire de ne pas le faire pour satisfaire son ego, pour faire la course aux jolies photos sur ses réseaux sociaux, pour épater ses copains ou pour... essayer de faire partie d'un groupe, de s'identifier à un groupe de gens qui font ça, comme on voit tout le temps sur les réseaux sociaux, quoi. Et du coup, moi, j'ai eu cette chance inouïe de commencer à voyager à une époque où il fallait faire 26 chiffres sur la cabine téléphonique pour pouvoir appeler chez moi, quoi, tu vois. Et alors, ça paraît il y a 1000 ans, mais en fait, c'était il y a vraiment pas longtemps. Et aujourd'hui, je me rends compte que pour vraiment voyager, c'est un effort, en fait. Et même si moi, tu vois, là, j'ai quasiment plus voyagé dernièrement, je sais que je continuerai à faire ce genre de démarche parce que pour moi, ça me nourrit, c'est important. C'est qui je suis. Simplement, je le ferai moins et j'y mettrai la manière qui a du sens pour pouvoir continuer à nourrir la personne que je suis qui s'est construite comme ça, quoi. Et donc voilà, je pense qu'il y a, pour clôturer un petit peu ta question, qui est une question qui revient tout le temps et qu'on aurait envie d'essayer de répondre en trois mots. Et c'est, maintenant, c'est plus une question de destination, c'est une question d'approche, de manière, de qu'est-ce qu'on y met. Mais le voyage, c'est une école de la vie, c'est une manière de s'épanouir. C'est pas qu'il faut arrêter, c'est qu'il faut le faire bien maintenant, quoi. Réduire, et quand on le faire bien, et réfléchir à le faire plus proche de chez soi aussi, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'aller très loin, en fait. Mais ouais, c'est sortir de sa zone de confort, éteindre son téléphone, pas prévoir tout à l'avance, et laisser la vie un petit peu nous guider, avoir confiance, et apprendre des expériences qui se trouveront sur notre chemin, quoi. Et non pas à l'opposé de... à aller à un endroit, tout est planifié, je vais pouvoir faire mes X photos pour Instagram et j'aurai l'impression de... Et je vais pouvoir me faire me mousser parce que, entre guillemets, j'ai voyagé, alors qu'en fait, j'ai exactement le même niveau de confort et de sécurité que chez moi. C'est juste que j'ai changé de paysage, quoi. Ben, c'est très jeune, hein. Moi, je suis partie ne serait-ce que faire un BTS d'agriculture tropicale en Guadeloupe quand j'avais 17 ans, après mon bac. Rien que ça, voilà, c'était déjà un sacré changement de... J'étais déjà hors de ma zone de confort. Mais moi, je suis partie de chez moi, j'avais pas encore fêté mes 14 ans, je sortais déjà de ma zone de confort. Et en fait, j'ai toujours été... c'est pas moi qui ai choisi, c'est la vie qui m'a dit, bah en fait, toi, tu... Ben, le petit cocon familial sympa où tu pourras... voilà, avoir une petite vie toute douce et tranquille, bah non, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Du coup, bah, voilà, ça a été mon chemin, quoi. Et je connais que ça, finalement. Et que depuis là, très peu de temps, je me suis un petit peu posée pour voir ce que ça fait que d'avoir de la sécurité, matérielle, une maison un peu confortable, un truc qui fait du bien. Mais dans le fond de moi, je suis une âme qui aime ça, J'aime être dans quelque chose qui me challenge et qui est... Ça me va, en fait, ça me plaît. Et je suis à l'aise dans l'inconfort, donc c'est cool. Voilà, donc ça a commencé très jeune pour répondre à ta question. Bon, au niveau de les jours, il y a tout plein de choses. Hein. Déjà, prendre ce que je mange. C'est-à-dire que moi, je mange encore de la viande, j'en mange très peu. J'en mange de certains... tu vois, on achète de la viande d'éleveurs d'ici qu'on connaît, qui sont clean. Et j'en mange, je sais pas, 2-3 fois par semaine, grand maximum, quoi. Que ce soit viande blanche et viande rouge confondue. La viande rouge, si j'en mange une fois tous les 15 jours, c'est beaucoup. Et ensuite, donc je mange beaucoup végétarien, même plutôt beaucoup vegan. Je mange aussi très peu de fromage maintenant. Et je mange plus de produits laitiers, de beurre et tout ça. Pour ces mêmes raisons, tout ça. En plus d'une raison qui est plus de l'ordre de la santé. Et donc ça, c'est la nourriture, des produits locaux. J'essaie de réduire un maximum le transport et l'impact environnemental de ce que je mange. Ensuite, mon transport à moi, c'est clair que d'un point de vue juste purement surf... Maintenant, je m'autorise à checker que 2 spots, quoi. Proche, quoi. J'arrête. C'est vrai que c'est hyper tentant de faire plein de spots et pour trouver le bon truc. Mais maintenant, même le plus souvent, c'est... Je me dis, si je vais quelque part, je me mets à l'eau et je commence pas à chercher. Ça paraît... Enfin, c'est vraiment un problème de... Déjà, c'est trop, en fait. Mais bon, après, voilà, c'est aussi... Ici, je suis obligée de prendre ma voiture pour aller surfer, c'est un fait. Mais c'est juste que maintenant, j'essaie d'aller beaucoup moins loin et je fais qu'un spot. Quand je dois faire quelque chose, j'essaie de grouper pour réduire les kilomètres et que ce soit le plus efficace possible. Et voilà, et en termes de consommation, la plupart du temps, j'essaie quand j'ai envie... Je crois que j'ai besoin de quelque chose, je me dis est-ce que j'en ai besoin. Je re-questionne ça plusieurs fois avant de vraiment réellement acheter. Et quand j'achète, j'essaye de prendre la meilleure option environnementalement parlant, pas toujours que pour. Clairement pas pour mon porte-monnaie. Après, j'ai aussi boycotté des trucs comme. J'utilise plus du tout Amazon. Je m'en rends plus trop compte, mais je vais plus au supermarché. Il y a énormément de canaux de consommation que j'utilise plus du tout. Mais c'est devenu tellement normal pour moi que je m'en rends même pas trop compte, quoi. Donc voilà, c'est pas des efforts, ça. Ensuite, j'essaie aussi de faire des efforts d'un point de vue tout ce qui est numérique aussi, parce que c'est comme si, comme c'est dématérialisé, on s'en rend pas trop compte, quoi. Mais j'essaie aussi de générer moins de. C'est un peu subtil, ça, comme truc, mais. Mais voilà, j'essaie de faire gaffe, tu vois, de ne pas prendre 10 000 photos stockées sur le cloud et qui prennent la place partout. J'essaie d'être un peu plus sobre. Moi, je fais tout ça un peu dans une démarche aussi de. Cette sobriété-là, elle m'apporte un bien-être psychologique aussi, quoi. Parce que ça limite. Ça évite là, d'être sursollicité. Tout ce qui est cosmétique et tout, moi, ça fait longtemps hein, que. Moi, j'ai qu'un savon dans la douche et. Tu vois, qu'une crème qui est clean pour tout, quoi. Ça se voit. Non, je blague. Enfin, pas non, complètement, mais je blague. Et voilà, quoi. Puis après, ben, on fait le jardin. Moi, j'ai des ruches. Bon, ça, c'est plus un point de vue... On peut pas dire que ce soit plus écolo. C'est plus d'un point de vue... C'est une démarche personnelle de
bien-être pour toi, quoi.
Ouais, aussi. Ouais. Puis de savoir ce que ça prend que de faire attention au vivant et du coup, ça permet de temporiser sa consommation. Je fabrique pas du miel, en fait. Pour moi, dans ma démarche, je m'occupe d'un rucher, en fait. C'est-à-dire, okay. Je propose à des abeilles de venir habiter dans des boîtes qui m'appartiennent, mais dont, en gros, je propose un habitat à des abeilles, quoi. Elles sont libres de rester ou de s'en aller, quoi. Ouais. Et moi, j'ai toujours eu envie de faire ça. Je ne sais pas tout à fait d'où ça vient. Je pense que quand j'étais petite, à un moment, il y a eu un essaim quand on était en vacances. Là, et il y a un apiculteur qui est venu. Et apparemment, il m'avait montré des trucs. Je ne m'en rappelle pas. Mais je devais être petite, mais je pense que ça m'a marquée. Et du coup, j'ai aussi vu pendant un temps, ma mère, elle avait 2-3 ruches. Et j'ai aussi vu le bien-être que ça lui procurait. Et ça lui donnait un repère avec les saisons et tout. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il y avait un vrai pouvoir. Voilà, les abeilles, elles avaient quand même un vrai pouvoir de relier à la nature, quoi, de relier au vivant. Et du coup, bon, c'était toujours mon objectif, hein, de quand j'aurais une stabilité géographique, d'avoir des abeilles. Mmh. Et du coup, voilà, quand ça s'est fait, à l'automne 2019, quand je savais que j'allais rester un petit moment, j'ai entrepris cette démarche-là. En demandant, et il se trouve qu'on a tous plus ou moins des contacts d'apiculteurs autour de nous. Et j'ai dédié du temps à apprendre en faisant en gros une journée par semaine sur une année à suivre une apicultrice et son mari. Et voilà, j'ai appris comme ça. Et après, je me suis mis son brassard en me disant « Je me sens prête. » Et là, cette année, je me suis occupée toute seule et ça s'est bien passé. Et c'est chouette. Ouais. C'est un engagement, c'est une responsabilité parce que de rien, tu as envie de les voir bien. Mais elles ont l'air contentes, elles restent. Elles font des bébés, elles ont l'air contentes. Donc, c'est vrai qu'avoir du miel, c'est plaisant, quoi. Moi, j'aime bien pouvoir remercier les gens ou faire plaisir. Mais c'est vrai que j'aime bien quand ça a du sens et bon, des fois on achète des trucs, mais on sait pas forcément quelle est l'histoire du produit, alors que moi je peux offrir un. Ça te permet de créer des liens. Là, l'autre jour, j'ai été surfer sur le parking, il y avait un type sympa avec qui on a discuté et il était en vacances, il était apiculteur. Je lui ai dit, oh, tu veux pas qu'on échange des pots et tout, parce que j'avais des pots, il avait des pots, on a échangé des pots. Et du coup, de fil en aiguille, c'est rigolo, quoi. Et le contact était fait, il avait besoin d'un... Enfin, la ramification, le tissu humain s'est fait autour de ça et ça fait partie des choses vraies un peu de la vie qui sont en dehors d'un rapport toujours monétaire qui fait beaucoup de bien. Je pense que ça, au-delà du soin aux abeilles et du lien au vivant, il y a ça aussi qui me plaît beaucoup, quoi. Voilà, le rapport humain, ça me fait rencontrer des gens géniaux. C'est précieux. C'est pas facile de... Non, c'est pas évident de voir les choses... Je sais pas si je vois les choses si différemment ou c'est juste une sensibilité très différente des autres. Mais on est beaucoup à être comme ça, on est beaucoup à être un peu heurté par toute la publicité, toute la consommation excessive, le gâchis. Enfin, je suis loin d'être la seule, on est beaucoup à qui ça fait mal dans les tripes, quoi. Et du coup, c'est difficile, ouais. Mais je me dis, il faut rester dans la discussion, il faut rester dans le... Il faut rester parce que c'est avec des mentalités comme ça qu'on va faire évoluer. Si on laisse le pas au modèle sociétal comme il est en ce moment, bah on va droit dans le mur, quoi. Donc du coup, moi je me dis non, il faut pas quitter le bateau. Il faut continuer. Et c'est ça que j'aimerais aussi faire, c'est pouvoir proposer d'expérimenter les choses à un autre rythme, avec d'autres valeurs, et pour aider les gens à passer le pas aussi de se dire la vraie chose dont on a besoin, c'est plus d'être bien avec soi-même plutôt que de consommer, que ce soit du matériel, mais aussi des services ou de l'activité. C'est presque... Il y a toute une démarche personnelle de prise de conscience de notre place de la valeur de la vie, de notre place dans ce monde qui est primordiale. Et je pense que qu'est l'eau un peu de tous les gens comme moi qui sont très sensibles et très du coup parfois malmenés par le rythme de la société, ouais. Du coup non, c'est vraiment pas évident, c'est presque un challenge au quotidien, mais les consciences, elles évoluent et on tend à être de plus en plus nombreux à aspirer à des choses plus vraies, en fait, à des rapports plus vrais, à une connexion avec quelque chose de plus fort qui nous dépasse nous-mêmes, quoi. Et je pense que le monde, il va aussi dans ce sens-là, il va pas que dans le chaos, et du coup, il y a de la ressource là-dedans, il y a de l'espoir, quoi. Et voilà. En tout cas, moi, dans cette manière d'être un peu différente, je me sens pas isolée. Je vois bien que j'ose l'assumer, c'est une chose. Et je peux l'assumer, c'en est encore une autre. Parce que j'ai la chance aussi d'être valorisée pour ce que je suis et pour ce que je fais, ce qui est loin d'être le cas de tout le monde. Enfin, c'est inouï d'être valorisée pour ce que je sais faire dans l'eau, pour qui je suis, tu vois. Il y a plein de gens qui doivent se battre. Moi, j'ai dû l'affirmer beaucoup plus tôt, mais il y a plein de gens pour qui c'est vraiment... chacun, à son échelle, se bat sur des... doit s'affirmer sur des niveaux différents, en fait. Ouais, quand j'étais enfant, plus jeune, moi, j'avais deux grands rêves, en fait. Le premier, c'était de faire un grand voyage en bateau et dans les îles et un grand voyage en bateau. Alors j'ai navigué avec mon bateau, avec d'autres bateaux, mais c'est vrai que j'ai pas dépassé, en fait, un certain inconfort logistique, j'ai pas réussi à lâcher les chevaux, donc pour plein de raisons, parce que y a beaucoup à apprendre, faut que tout s'aligne pour que ça se passe bien. Donc peut-être qu'un jour j'y reviendrai. Et ensuite, et le deuxième rêve un peu qui m'a toujours tenue aussi, c'est de vivre une certaine forme d'autonomie, mais pas dans le sens autonomie pour s'isoler, mais plus une autonomie pour la richesse de savoir de l'abondance, en fait. C'est donc dans le sens pouvoir produire ce que je mange, produire l'électricité. En fait, c'est une recherche de complétude avec la nature, quoi. Et voilà, ça, c'est toujours un truc qui m'a toujours fait rêver. Et donc, c'est aussi pour ça que j'apprends plein de plein de compétences pour tendre vers ça, quoi. Dans le bateau, il y a aussi ça, hein. Il y a cette idée de pouvoir se suffire à soi-même ou pouvoir au moins se contenter de ce qu'on a, quoi, et d'y trouver une satisfaction. Voilà, donc c'est comme si c'était des rêves que je touche un petit peu du doigt, un peu plus chaque jour, mais clairement, qui ne sont pas encore... qui ne sont pas rangés dans un dossier en disant ouais, ça c'est fait. Je pense qu'au-delà de rêves, c'est plus des idéaux de vie que je poursuis, quoi, qui me donnent une raison d'avancer, quoi. Je dirais qu'elle a en elle une intuition et une force extraordinaire, et qu'il faut qu'elle se fasse confiance à elle et pas forcément aux autres.
Okay. Ouais.
Qu'elle sache s'écouter, mais avec son cœur, pas avec son esprit, en fait. Je pars dans des trucs un peu bizarres, mais voilà, je pense que quand on, à cet âge-là, on a une intuition très forte, et que j'appelle son cœur, le cœur. Et à la fois, on essaie de nous remplir le mental de choses à faire comme il faut, mais au fond de soi, on sait vraiment ce qui est juste et ouais, on a de la ressource, quoi.
Ouais.
Et du coup, je pense que... Ouais, je lui dirais ça, je lui conseillerais de s'écouter vraiment à elle, d'être prudente, d'avancer pas à pas, mais d'écouter son cœur et bon, pas trop son mental.
Okay.
C'est un peu ce que j'ai fait à cet âge-là, d'ailleurs. Ouais. Mais voilà.
C'était Léa Brassy dans Les Aventuriers Engagés, un podcast produit par la Water Family, association à l'écologie depuis 2008. On vous partage tous ces réseaux dans la légende de l'épisode et on se dit à très bientôt.